BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
j'ai dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus sur BFM Business, dans Good Evening Business, en direct bien sûr jusqu'à 20h. Et en direct, on a beaucoup de choses ce soir encore à vous raconter, à commencer par cette facture. La facture des futurs EPR français qui est déjà en train de s'envoler. Ce sont des infos de presse qui sont tombées ce matin et qui tombent mal parce que vous savez qu'Emmanuel Macron est en République tchèque justement pour parler entre autres nucléaire et aider EDF à vendre des EPR. On va retrouver Mathieu Couache qui est sur place dans un instant. Sinon, on a le Super Tuesday bien sûr qui a commencé aux États-Unis. On va retrouver Antoine Hollard qui est à Washington. Et puis on va parler tout au long de la soirée de ce qui divise fondamentalement Donald Trump et Joe Biden sur le plan économique. Eux qui n'ont pas encore parlé beaucoup économie à ce stade de la campagne, bien sûr. On en parle avec nos experts, on parlera avec eux de la Chine aussi, qui nous annonce qu'elle fera 5% de croissance cette année, mais que ça sera dur. Il n'y avait pas vraiment de conviction, pour être honnête, dans les propos du Premier ministre chinois ce matin à Pékin. On va l'écouter. Tout ça plus bien autre chose. À 18h15, notez que c'est Jacques Ressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, qui sera l'invité d'Eddy Chevrillon dans la grande interview. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h et avec plaisir sur BFM Business. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Voilà, donc beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. Et puis, je ne vous ai pas dit l'essentiel au milieu de tout ça. Figurez-vous que c'était attendu. Ça y est, le Bitcoin a battu tout à l'heure un nouveau record historique. Bonsoir Étienne Brack, vous êtes à Euronext pour BFM Business. Ça y est Étienne, on a passé...
Bonsoir.
La barre fatidique des 69 000 dollars sur le Bitcoin.
Ça a été de courte durée, figurez-vous, cet après-midi, puisque désormais, il perd quasiment 4,5%. Vous voyez, sur les crypto-monnaies, ça va très vite. Mais en effet, ça y est, le record de 2021 a été battu en ce mardi 5 mars. Quasiment 47% de progression depuis le début de l'année pour le Bitcoin. x2 depuis novembre, x3 depuis un an. 1300 milliards de dollars de capitalisation pour le Bitcoin. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la moitié de la capitalisation du CAC 40. Bref, tout cela est allé très vite. Le Bitcoin qui s'est refait une image après une période compliquée avec notamment les déboires de SBF, de Sam Bankman-Fried, et puis surtout en début d'année un élément qui a tout changé, le fait que le Bitcoin soit désormais adossé aux États-Unis sur un ETF, ce qui fait que les institutionnels, les assureurs, les banquiers peuvent désormais mettre du Bitcoin pour diversifier un petit peu le patrimoine, à l'image notamment de l'or que l'on peut mettre dans certains contrats pour apporter un petit peu de diversification. Et bien désormais vous avez le Bitcoin qui rentre également dans l'allocation du patrimoine. Et par rapport à cela, vous avez des volumes qui sont en forte hausse depuis plus d'un mois et des marchés qui courent après ce Bitcoin, ce qui explique ce record qui est arrivé si vite, quand même 50% de progression depuis le début de l'année pour cette crypto.
Merci beaucoup Étienne, on vous retrouve dans 10 minutes à peine pour faire un nouveau point évidemment sur les marchés. Bitcoin qui a donc battu son record historique, mais on l'avait vu venir. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette mauvaise pub, une de plus pour l'EPR. Le journal Les Échos a révélé ce matin que la facture des 6 futurs EPR français avait pris 30% par rapport aux estimations initiales. L'info est sortie le jour où Emmanuel Macron est en République tchèque où EDF tente justement de vendre des EPR. Bonsoir Mathieu Couache, vous êtes sur place. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de vendre le savoir-faire français en la matière tout à l'heure.
Ah oui, je peux vous dire qu'il s'est même transformé en VRP d'EDF à chaque étape de cette visite depuis ce matin en République tchèque. Ça a commencé en vantant donc le champion français du nucléaire civil dans la presse locale ce matin, puis devant la communauté française, ensuite avec le président Petr Pavel, avant de signer un partenariat stratégique avec le Premier ministre tchèque cette fois, partenariat qui contient un volet énergie. Et à chaque fois, eh bien, le même message d'Emmanuel Macron: en choisissant EDF, la République tchèque choisirait un acteur européen. Et si elle se tournait vers des réacteurs coréens qui sont en concurrence avec EDF, eh bien c'est la souveraineté européenne qui serait mise à mal. Écoutez le président de la République.
Nous devons apporter une solution aux défis climatiques. Nous devons être plus souverains en matière d'énergie et donc la produire sur notre sol. Et nous devons produire une énergie compétitive. Le nucléaire répond à cette stratégie.
Et puis Emmanuel Macron n'est pas arrivé les mains vides ici et à Prague. Il a décidé de soutenir une initiative tchèque d'achat de munitions pour l'Ukraine en dehors de l'Union européenne. Au départ, la France était contre cette idée et certains y voient un signe de bonne volonté française qui pourrait peser dans le choix des futurs réacteurs nucléaires. Réponse des Tchèques donc sur leur choix entre EDF et le sud-coréen KHNP en fin d'année ou début 2025.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Kouache donc à Prague pour BFM Business. Emmanuel Macron qui a malgré tout fait le job, hein, qui a fait le VRP pour EDF, qui espère vendre 4 EPR. Je vous rappelle donc les infos des Échos. Facture, première estimation à quelques années à 51 milliards d'euros pour les 4 EPR. On serait passé, d'après le journal, à un peu plus de 67 milliards d'euros. On en reparlera bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Et puis dans l'actualité ce soir, c'est le grand jour, celui du Super Tuesday aux États-Unis. On vote pour les primaires dans 15 États du pays. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Grosse journée, mais bonsoir. A priori très faible suspense, Antoine.
Oui, alors c'est vrai que d'habitude, le Super Tuesday, c'est une journée décisive qui peut faire basculer la course à l'investiture. Mais cette année, il n'y a absolument aucun suspense. Côté républicain, c'est Donald Trump qui va s'imposer. Il est tellement en avance dans les sondages qu'il a à peine fait campagne ces derniers jours pour le Super Tuesday. Trump qui espère une victoire écrasante qui lui permettrait de donner le coup de grâce à Nikki Haley, la seule rivale qui est encore face à lui. Pour le moment, Nikki Haley s'accroche. Elle espère être un plan B dans le cas où Trump se retrouverait hors jeu à cause de ses ennuis judiciaires. Sauf que ce scénario semble de moins en moins probable et franchement on voit mal comment Nikki Haley va pouvoir survivre à ce Super Tuesday, surtout que ses gros donateurs sont en train de la lâcher. Elle n'aura de toute façon bientôt plus d'argent pour continuer sa campagne. Et puis côté démocrate, là non plus, aucun suspense. C'est Joe Biden qui va rafler la mise, il n'a aucun candidat sérieux face à lui. Donc pas de suspense, pas de surprise aujourd'hui, mais quand même une journée qui reste très importante parce qu'elle est en train de mettre en place le duel présidentiel, ce match retour entre Biden et Trump, une affiche qui ne fait pas du tout rêver les Américains et qui, pour le moment, ne déclenche pas beaucoup de passion ici aux États-Unis.
Et moi, qu'on peut se dire. Merci beaucoup, Antoine. Antoine Hollard, on écoutera bien sûr tout à l'heure ce que nous disent nos experts à ce sujet. On va gratter un petit peu, voir quelles sont les déclarations, ce que nous disent d'ores et déjà les deux candidats sur leur programme économique en vue de cette élection qui aura lieu. Évidemment, en novembre prochain, la Chine, elle en tout cas, vise officiellement 5% de croissance cette année. C'est ce qu'a déclaré ce matin son Premier ministre Li Xiang à Pékin. Ça n'a pas vraiment impressionné les marchés. Il faut dire que dans la façon de présenter les choses, on n'a pas sorti un très grand enthousiasme dans la voix du Premier ministre. Ça sera dur à atteindre malgré tout, c'est ce qu'il a déclaré. On en reparlera avec un économiste un petit peu avant 19h sur BFM Business. Et puis, 18h05, on vient en France parce que le gouvernement a fait des annonces aujourd'hui pour simplifier cette fois la vie des commerçants. Bonsoir Pauline Tadevin. Des annonces quasiment un an après le lancement du fameux Conseil national du commerce, Pauline.
Oui, c'était l'heure du bilan, en quelque sorte, ce matin à Bercy. Il y avait la ministre Olivia Grégoire qui porte ce sujet. Le secrétaire général aussi du Conseil national du commerce, Thierry Mandon, on se rappelle, il a été secrétaire d'État à la simplification. Ouais. Il nous a dit ce matin, le Conseil national du commerce, c'est pas un machin, c'est fait pour agir. Alors, à quoi ça sert, ce Conseil national du commerce? Il agit pour inscrire des propositions dans l'agenda des réformes. Il enregistre les propositions qui remontent des commerces au niveau local. Et puis, il travaille sur plusieurs rapports. Un rapport sur la fiscalité, un rapport sur la transmission des commerces, un rapport aussi sur la décarbonation. Plusieurs annonces, vous le disiez, ont été faites pour simplifier la vie des commerces. Une mesure, par exemple, pour permettre à un certain nombre d'entre eux, sous une certaine taille, de s'installer plus rapidement dans les galeries marchandes. L'obligation d'obtenir une autorisation après des visites d'experts, etc., est remplacée par une procédure qui est basée sur du déclaratif certifié. Il y a eu aussi plusieurs mesures annoncées pour faciliter les autorisations d'exploitation commerciale. Une mesure aussi sur les baux commerciaux. La ministre Olivia Grégoire veut que les loyers puissent être payés au mois le mois et plus tous les trimestres pour soulager les trésoreries des commerçants. Olivia Grégoire qui a aussi lancé plusieurs chantiers pour le commerce de centre-ville, pour qu'ils redeviennent attractifs ou encore pour moderniser le commerce grâce à l'intelligence artificielle.
Voilà pour les annonces d'Olivia Grégoire ce matin à Bercy. Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Et puis alors si vous avez des difficultés à vous connecter sur Facebook, Instagram ou encore Messenger depuis tout à l'heure, rassurez-vous, ce n'est pas forcément vous. Il y a une série de pannes sur les réseaux de Meta depuis environ une heure et demie. Nous y travaillons, a tweeté tout à l'heure un porte-parole du groupe. Et puis si vous nous regardez à la télévision, je vous invite à découvrir le tweet qu'a fait Elon Musk. C'est gratuit évidemment. Si vous lisez ce tweet, c'est que nos serveurs à nous sont en train de marcher. Rien n'indique, cela dit, que les serveurs de Meta soient endommagés en l'état actuel des choses. Cette bonne guerre. 18h07, on va sur les marchés, on y retourne. Retrouver Étienne Brack depuis Euronext. Rebonsoir Étienne. Au milieu de tout ça, petite baisse ce soir pour le CAC 40 à la clôture, Étienne.
Et un retour à la case départ, hein, plus 0,3 hier, moins 0,3% ce soir. Donc le CAC 40 revient quasiment sur son niveau de clôture de vendredi à 7932 points. Avec une valeur néanmoins qui se distingue aujourd'hui, c'est Thales qui est sur un plus haut historique au-delà des 150 euros. Avec un titre qui rejoint des records après une hausse de plus de 9% suite à ses résultats annuels. Hein, avec surtout des perspectives solides. Hein, force est de constater qu'avec le climat actuel, beaucoup de pays ont décidé d'augmenter leur budget défense. À noter que du côté de Wall Street, la tendance est bien plus mitigée avec un Nasdaq qui perd 1,6%, un S&P qui perd 0,9%, de l'attentisme avec Jerome Powell qui est attendu au tournant demain et jeudi devant le Congrès, jeudi la BCE et puis ensuite vendredi l'emploi américain. Bref, la fin de semaine sera chargée et en attendant, vous avez des boursiers qui prennent assez peu d'initiatives, moins 0,3% donc pour l'indice parisien qui s'éloigne un peu plus des 8000 points à 7932 points.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Étienne Brack depuis Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment, à la mi-séance. Le Dow Jones qui perd 0,7%, 38 705 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui dégringole beaucoup plus nettement. On perd 1,8% là quand même, 15 918. Tout ça à la mi-séance. 18h09, on parle grande distribution, Jacques Ressel. Et donc l'invité d'Eddy Chevrillon, c'est la grande interview dans un instant. A tout de suite.
BFM Business présente... Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, mon invité, c'est Jacques Ressel, délégué général de la FCD. La FCD, vous le savez, c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Bonsoir Jacques Ressel.
Bonsoir.
Merci d'être là. J'ai envie de dire encore, on va encore parler grande distribution, on va encore parler d'agriculture. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. D'abord, vous avez annoncé, alors ça c'était il y a quelques jours, votre départ de la FCD. C'est un point important. Ça fait combien de temps que vous étiez à la tête de la grande distribution et du commerce ?
Ah, ça fait une bonne douzaine d'années.
Voilà. Mais vous restez, on le verra, membre du comité exécutif du MEDEF et puis surtout président de la commission des affaires économiques du MEDEF. Une question, pourquoi ce départ ? Est-ce qu'il y a un changement de gouvernance en plus ?
Oui, non, le départ il est tout simple. Hein. J'ai 67 ans et donc il y en a qui manifestent dans la rue pour partir beaucoup plus tôt que ça. Et donc il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Donc ça fait 2 ans que c'est lancé. Et je suis extrêmement heureux que le bureau du MEDEF le bureau de la FCD ait nommé une jeune femme extraordinairement compétente, Leïla Raoult, à ma place. Donc c'est vraiment une succession organisée, parfaite, avec en plus un changement de gouvernance, puisque cela s'accompagne d'une grande nouvelle aujourd'hui.
Alors voilà la grande nouvelle aujourd'hui pour vous, ça fait très longtemps que vous travaillez dessus. Deux membres importants de la grande distribution, Leclerc et Intermarché, rejoignent jusqu'à présent, ils avaient toujours refusé vos avances, ils rejoignent votre fédération donc, de la distribution. En quoi pourquoi c'est si important ? Parce que c'est important, mais pourquoi c'est important ? Est-ce que c'est une manière pour la grande distribution de se mettre en ordre de bataille par rapport à cette loi Egalim 4 qui va vous tomber dessus ?
C'est d'abord une nouvelle extrêmement positive due à l'action du président de la FCD, Monsieur Bompard, le président de Carrefour, qui a vraiment...
Oui, c'est le troisième larron, pardon, pardonnez-moi l'expression.
Alexandre Bompard a fait un travail vraiment important pour les convaincre et moi je suis extrêmement heureux. J'ai tweeté cet après-midi que c'était vraiment quelque chose sur le plan personnel et professionnel qui était très émouvant parce que c'est beau, il y a beaucoup de temps qu'on travaille. Alors, sur le fond, pourquoi c'est essentiel ?
C'est
essentiel parce
que tout ce qui vient de se passer,
il y a naturellement le besoin d'être plus fort sur toutes ces lois qui nous arrivent en permanence, notamment sur les relations commerciales. Mais il y a beaucoup d'autres enjeux. L'enjeu de la décarbonation, l'enjeu de l'économie circulaire, l'enjeu de la digitalisation, l'enjeu des compétences. Sur tous ces sujets-là, on a besoin que l'ensemble des grandes enseignes, à la fois de l'alimentaire, mais aussi des grandes enseignes spécialisées, les Fnac Darty, les Ikea, les Leroy Merlin, que tout le monde travaille ensemble, parce que, d'abord, ça économise des coûts pour toutes ces enseignes, et ensuite, ça permet d'être plus efficace, plus réactif, et donc, pour nous, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de fondamental. Il n'y a jamais eu autant d'enjeux, il n'y a jamais eu autant de défis pour le secteur, donc il faut qu'on travaille, il n'y a pas de choix, il faut que tout le monde soit autour de la table.
Parce que la FCD, c'est commerce et distribution, j'ai envie de dire que la distribution va prendre, parce que là, ça devient vraiment tous les poids lourds, à l'exception de Lidl, hein, du reste. Tous les poids lourds sont là, la distribution va peser très lourd dans cette fédération. Ah parce que le petit commerçant du bout de la rue.
Non, il y a une autre fédération qui s'occupe du commerce de proximité et qui est naturellement totalement essentielle. Il y a une relation entre les deux. On est vraiment dans une logique de co-construction sur l'ensemble des sujets. Mais il y a beaucoup de choses. Chez nous, il y a aussi Picard, pour prendre cet exemple. Il y a toute une série de plus petits magasins, soit directement dans la fédération, soit à côté. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être plus efficace ensemble, de travailler sur nos grands sujets. Il faut bien voir que, par exemple, on a vu ça au niveau européen, il va falloir doubler les investissements dans les années qui viennent pour faire face à la transition écologique ou à la transition digitale.
Oui, oui. Alors,
Il faut que, naturellement, on travaille ensemble pour économiser les coûts.
Jacques Ressel, évidemment, c'est très très important. Je dis juste que là, on sort quand même d'une séquence qui, j'imagine, vous a tous secoué, enfin, qui a secoué un peu tous les agents de la distribution, les agriculteurs, les ministres, les présidents de la République, parce qu'avec cette ouverture un peu ubuesque du Salon de l'Agriculture. Est-ce que cette période, d'abord, vous, comment vous l'avez vécue, toute cette période-là ?
D'abord, les décisions qui ont été prises aujourd'hui ne sont pas liées à la séquence de ces derniers jours.
Non, mais je pense que si Intermarché et Leclerc, ça a fini de les convaincre, peut-être qu'il fallait unir vos forces.
Oui, il y a eu plein d'autres choses, y compris, vous savez, ça a commencé avec le Covid. On s'est tous retrouvés ensemble à agir collectivement, et c'est là que sur la séquence du Salon de l'Agriculture.
Cette séquence, en réalité, même avant et après, quoi.
La séquence de samedi avec le président était une séquence extrêmement difficile. Moi, c'est la première fois depuis que je suis dans mes fonctions que je ne vais pas accueillir le président de la République au Salon. D'habitude, je représente le commerce dans toutes les interprofessions. Je suis vice-président de l'interprofession laitière. Je l'accueille. Je ne l'ai pas fait, c'était triste. Par contre, je l'ai fait dès 6h30 du matin avec le Premier ministre à la traite, où effectivement il était là. Et l'ensemble des autres visites se sont bien passées. Et il faut bien voir que ça surprend toujours beaucoup les observateurs extérieurs. Nous sommes en train de travailler toute la journée avec les producteurs agricoles, avec les industriels, avec les coopératives, pour faire en sorte, profession par profession, qu'on améliore les choses. Mais ce que ça a montré plus profondément, c'est qu'en réalité, il y avait beaucoup d'agricultures différentes, beaucoup d'agriculteurs différents.
D'accord, ok. Enfin, là, vous me faites un schéma un peu idéal de vos relations. En tous les cas, la grande distribution, tous les patrons des marques dont on vient de parler étaient tous sur tous les plateaux de télévision, puis tout d'un coup ils ont disparu parce qu'ils étaient devenus les grands méchants loups. Donc c'est pas une période qui a été facile.
C'est assez normal parce qu'on voyait tout à fait les questions qui pouvaient être posées.
Et en plus, vous avez pris une nouvelle loi.
C'est une manie française. On fait une loi à peu près chaque année. Il faut d'ailleurs à un moment se finir par se poser la question de savoir si quelqu'un sait exactement ce qu'il faut appliquer. Nous avons le système le plus complexe au monde, le plus instable au monde et le plus critiqué au monde. On peut peut-être se poser la question de savoir si c'est pas parce qu'on a un système instable et complexe que finalement il marche pas. Ouais. On a aujourd'hui en permanence des idées nouvelles qui apparaissent. Pour moi, les choses sont très simples. Il faut, si on fait une nouvelle loi, puisque ça va être le cas, d'abord simplifier. Nous avons un système affreusement compliqué, comme il n'en existe nulle part au monde. Simplifions les choses. Deuxièmement, il faut de la transparence. On a un sujet absolument majeur, c'est qu'on dit qu'il faut que les producteurs agricoles soient rémunérés au juste prix. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. La seule chose, c'est que le prix en question, les industriels ne le donnent pas dans la suite du processus. Donc, il se passe ce qui s'est passé. On voit bien dans le cas Lactalis, qui a quand même été l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Ils négocient avec nous avant d'avoir négocié avec les producteurs agricoles. Oui. La loi, elle dit, vous devez d'abord négocier avec les producteurs agricoles. Oui. Ils ne respectent pas la loi, c'était un problème. Donc voilà, il faut arriver à remettre les choses. Et donc, ce qu'a annoncé par exemple le président de la République en disant, il y aura une obligation de négociation de premier niveau entre les producteurs agricoles et les industriels avant même les négociations avec les industriels, avec les distributeurs, c'est du bon sens.
Oui, c'est du bon sens, parce que aussi, alors je disais, c'était ce ralliement d'Intermarché et de Leclerc, c'est une manière aussi de se préparer par rapport à cette nouvelle loi et l'Egalim 4, mais c'est aussi une manière de montrer votre force face à l'industrie agroalimentaire, parce que là, tout le monde s'interroge pour savoir comment se répartit cette valeur ajoutée, qui en profite, les agriculteurs, la grande distribution. Oui. Ou l'industrie agroalimentaire. Enfin, on a eu tous ces débats depuis 10 jours, oui, ou 15 jours.
Là-dessus, les choses sont extrêmement simples. On est le seul pays au monde où il y a un observatoire des prix et des marges.
Oui, mais enfin, visiblement, on a du mal...
Les chiffres sont là et ils ne sont pas faits par nous, ils sont faits par le gouvernement. Donc, l'observatoire, c'est quelque chose qui dépend France Agrimet du ministère de l'Agriculture. Les données sont très claires. La grande distribution, c'est entre 1 point et 2 points de marge nette. De l'autre côté, on a des industriels qui... sont en deux catégories. Les PME ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Pardon, vous avez dit combien de marge ?
Entre 1 point et 2 points de marge nette.
Ah oui, parce que la marge opérationnelle de Carrefour, si mes souvenirs sont bons, était le 2,6. Parce que Carrefour et Intermarché qui a publié aujourd'hui, ils ont passé une très bonne année 2023. Donc,
À cause, d'abord, pas forcément de la France, et deuxièmement, à cause de la réduction des coûts internes. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se passe, que dans une entreprise, naturellement, dans des difficultés, et lorsqu'il y a des difficultés, on réduit les coûts, c'est normal. Mm-hmm. C'est comme ça que les résultats sont effectivement meilleurs. Mais globalement, quand on regarde les chiffres, ils sont extrêmement clairs, c'est entre 1 et 2 points de marge nette. Mm-hmm. De l'autre côté, on a des industriels qui
les deux points,
pour les petits, gagnent peu d'argent, quelques points de marge nette, et les très gros gagnent énormément d'argent. C'est connu. Il se trouve qu'ils sont la plupart du temps cotés, que leurs chiffres sont publics, et que Coca-Cola fait 26% de marge nette après impôt, à comparer au 1-2, que Nestlé fait, selon les années, entre 12 et 15%. On le sait. Bon, et donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La répartition de la valeur, elle est en faveur d'abord et avant tout des grands industriels, et peu en faveur des distributeurs. Donc,
et encore moins pour la vie des agriculteurs.
Et du côté des agriculteurs, tout dépend de la situation.
Oui. Si
avec des coûts de production qui vont de 1 à 2 et de 1 à 3. En moyenne, globalement, l'agriculteur est en difficulté. Mais selon le type d'agriculture, selon le type d'exploitant, il y a des écarts-types, comme on dit, qui sont extrêmement larges.
Jacques Ressel, un des points qui va être important, en tous les cas, si on écoute Bruno Le Maire, ça risque de se passer. On ne sait pas très bien comment, parce que ça va être compliqué. La suppression des centrales d'achat européennes, donc ça vise notamment Eurelec de Leclerc, mais pas que, parce qu'on sait qu'ils y sont tous. Alors, l'argument que m'a donné ici de Michel Cher ou encore Thierry Cotillard, c'est de dire que c'est une façon, justement, de lutter contre les géants de la distribution. Les géants, pardon, du commerce, type Coca, Marx, etc. Vous, c'est quoi votre position à la FCD ?
D'abord, elles existent depuis très longtemps, bien avant les lois Egalim et autres. Deuxièmement, c'est quelque chose qui se fait dans tous les secteurs. Même l'État lui-même, lorsqu'il a acheté des vaccins, a créé des centrales d'achat. Faut pas oublier ce genre de choses. C'est quelque chose qui se fait dans tous les secteurs. L'aéronautique, l'automobile et autres. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on dit que ça va pas? Et ça se fait uniquement avec quelques grandes multinationales qui elles-mêmes vendent dans tous les pays. Les Coca, les Nestlé, les Procter, les Unilever. Ça se fait de cette façon-là. Et donc ça n'a rien.
Et en plus,
c'est considéré par Bruxelles comme quelque chose non seulement de légal, mais la Direction Générale de la Concurrence et la Commissaire à la Concurrence ont dit que c'était quelque chose de positif pour l'ensemble des consommateurs. Donc, on a Bruxelles qui nous dit c'est très bien, allez-y, continuez.
Notre ministre de l'économie.
Nos ministres considèrent que ça n'est pas le cas, pour des raisons de déclaration politique assez largement sur le fond. Ils savent très bien que lorsqu'on arrive à acheter la bouteille de Coca moins chère et à la vendre moins chère, c'est du pouvoir d'achat en plus qui permet d'acheter des fruits et légumes français. C'est ça la réalité sous ceci. Et donc, je crois qu'il faut la rappeler en permanence. Et quand on dit que quelque chose qui est acheté en Belgique, en droit belge, doit respecter le droit français, pourquoi le droit français et pas un droit d'un autre pays européen ? Le marché unique, c'est quelque chose qui est sacré. À la veille des élections européennes, dire la France doit avoir quelque chose de complètement différent de l'Europe,
vous faites de la politique, Jacques Ressel, vous faites de la politique. Puisque vous quittez le poste de délégué général de la FCD, c'est, j'allais dire, président. Non, c'est Alexandre Bompard. Mais par contre, vous êtes président de la Fédération du commerce mondial. Demain, c'est le Super Tuesday. On voit bien que de plus en plus, les relations deviennent un peu compliquées. La mondialisation devient compliquée. On parle de souveraineté agricole. Est-ce qu'il faut signer ces grands accords mondiaux comme le CETA, on est en train de le révisiter. Je ne sais pas, du reste, il a été, je recevais Franck Riester, une grande négo au Sénat. Est-ce que le Mercosur, il faut s'asseoir dessus? Quelle est votre position, vous?
Ce ne sont pas des sujets dont on parle dans la Fédération du commerce, dans la mesure non. où c'est entre les producteurs agricoles et les industriels. Ce qui est certain, c'est que on est totalement d'accord avec les producteurs agricoles lorsqu'ils disent que ça ne doit pas conduire à faire en sorte que des produits avec des normes complètement différentes puissent rentrer en Europe. Hein. Mmh. Ce qui se passe par exemple avec le Mercosur sur les poulets ou des éléments de ce type-là, ou des produits de ce type-là, c'est tout à fait clair. En revanche, le commerce, c'est quelque chose qui est bon pour l'agriculture. 40% du lait français est exporté.
Oui.
Une très grande partie, le président de la République lui-même disait que on exporte deux fois plus que ce qu'on importe globalement dans la production française. Donc c'est quelque chose qui est positif, qui permet de faire vivre beaucoup d'exploitations agricoles. Donc attention, ne rejetons pas tout et faisons en sorte que par contre, ça soit positif pour tout le monde.
Retrouver son calme, c'est un peu ce que vous semblez nous dire. Ce matin se déroulait, du reste vous y étiez, le Conseil national du commerce. Un conseil de plus, national, ça sert à quelque chose, le Conseil national du commerce? Vous n'allez pas me dire non.
Oui, d'autant plus que je suis à l'origine de la création de ce conseil, donc je suis d'autant plus positif. Oui. Il faut qu'il serve et qu'il serve encore plus qu'il ne sert aujourd'hui.
Ce matin, donc il y avait notamment Thierry Mordon, parce qu'on a parlé, Thierry Mordon c'était l'ex-monsieur simplification, hein, François Hollande, avec Guillaume Patrinal. Là, il était là.
Le secrétaire général du Conseil.
Secrétaire général du Conseil avec Olivia Grégoire, la ministre. Qu'est-ce qu'on est sorti à différentes mesures? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous paraît très important sur les baux commerciaux? Ils pourraient passer en fait de 3 mois à 1 mois. Est-ce que ça c'est un point important?
Alors, nous sur les baux commerciaux à la FCD, c'est quelque chose sur lequel on se prononce pas parce qu'on a on a les deux côtés. Donc par contre, ce qui est important, c'est il y a quelques mesures qui ont été prises, par exemple sur des délais en matière d'autorisation d'installation de magasins dans les centres commerciaux, le fait que les procédures en matière de permis de construire et d'autorisation d'exploitation commerciale soient des procédures qui soient désormais coordonnées en termes de délais. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit permettre d'accélérer les choses. C'est bon, ça va dans le bon sens. Nous, on souhaite que ça aille au-delà et notamment qu'on aille plus loin dans la simplification notamment de tout ce qui concerne les autorisations d'ouverture, hein, par exemple le dimanche ou en soirée. Sur tous ces éléments, là, il y aura une loi spécifique qui va être votée, mais c'est du côté du ministère du Travail, donc la ministre du Travail, Catherine Vautrin, a souhaité que ça soit un projet indépendant du reste.
Il y aura quelque chose sur l'ouverture des magasins le dimanche?
Je pense qu'il y aura des choses, pas forcément le grand soir, mais au moins faciliter l'ouverture lorsque les partenaires autour de la table sont d'accord, et la plupart du temps c'est ce qui se passe, alors qu'aujourd'hui on a un système d'une complexité absolument redoutable dans lequel le principe c'est l'ouverture, mais parfois on a la possibilité par des arrêtés et des accords locaux de faire l'inverse. Tout ça est affreusement compliqué, donc on va simplifier tout ça.
Comment faire? Il y avait un point aussi important, c'est effectivement comment soutenir le commerce de centre-ville, parce qu'il y a l'opération Cœur de Ville soutenue par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires qui est très efficace. Oui, mais le problème, c'est le relais. C'est-à-dire que dans les centres-villes, il n'y a pas de parking. Souvent, il n'y a pas assez de parking, il n'y a pas de soutien local suffisamment fort.
On a plein d'exemples en France de centres-villes qui se sont redynamisés de façon extraordinaire avec des politiques d'ouverture de parking, parfois de parking gratuit, de toute une série d'éléments de ce type-là. Après, à l'intérieur du commerce, vous avez différentes catégories. Le commerce alimentaire, par exemple, se porte plutôt bien. Nous, on a une fédération du commerce de proximité. On voit bien les villes françaises, notamment les petites villes, ont plutôt plus de magasins alimentaires qu'il y a un certain nombre d'années. En revanche, en termes d'épicerie et autres, ça se passe plutôt bien. Par contre, les magasins d'habillement, par exemple, se portent très très mal.
Alors, on voit bien. Justement, les grands centres commerciaux, on voit bien qu'ils souffrent, ils sont à la peine.
Ça dépend des endroits, là aussi.
Même à Paris, aux alentours de Paris.
Là, il y a besoin d'investir, il y a besoin de revitaliser un certain nombre de sorte. Le commerce, d'une manière générale, souffre. Il souffre tout simplement parce qu'il a connu ces dernières années les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, des manifestations en tout genre. On voit bien que tout ceci, au bout d'un moment, ben, ça fait de l'endettement supplémentaire, beaucoup de petits magasins. Et quand vous rajoutez à ça les Chines, les Temu qui arrivent sur le marché avec des produits à très bas prix, il y a une proposition de loi pour le moment pour essayer justement de combattre tout ça. Eh bien, on voit bien que beaucoup de magasins aujourd'hui sont en difficulté au moment où elles doivent doubler leurs investissements pour faire face, y compris à des obligations réglementaires, par exemple sur les économies d'énergie.
Merci beaucoup Jacques Ressel d'être venu nous voir. Donc encore délégué général de la FCD, et puis j'ai oublié toutes vos présidences, mais elle reste là.
18h33 sur BFM Business, bienvenue dans Les Experts. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. Vous venez de rejoindre ce plateau. Edwige Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous. Alors avec Guillaume, évidemment, on voulait rebondir sur l'échange que vous venez d'avoir avec Jacques Ressel, et notamment sur cette alliance, cette espèce de front commun des grandes enseignes de la grande distribution, donc Intermarché. Et Leclerc rejoint la Fédération du commerce et de la distribution. Qu'est-ce que vous en dites ?
C'était le point, c'est vrai, c'est la grosse annonce du jour hein, quand ouais. même, parce que ça a été attendu depuis très longtemps d'avoir donc Intermarché et Leclerc, donc c'est quand même les deux grands géants, mais c'est des modèles
numéro 1, numéro 3, voilà, c'est ça.
Oui, ouais. Voilà, et si vous avez des modèles, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux modèles très différents. Vous avez les modèles intégrés type Carrefour, ouais. Avec Alexandre Bompard, du reste qui est le président de la fameuse FCD, la Fédération de Commerce et de la Distribution, et puis vous avez des modèles, du reste qui sont en train de prendre le pas avec chacun des patrons de magasins indépendants type Intermarché ou Leclerc. Et là, c'est ce que est en train de faire Alexandre Bompard chez Carrefour, parce que c'est un modèle qui est plus rentable. Et là, ils intègrent donc cette fédération, donc c'est un événement. Alors pourquoi ? Eh ben, comme par hasard, on sort d'une séquence quand même très difficile pour la grande distribution, qui a été un peu pointée du doigt.
Largement commentée par Mathieu Pechberti.
Largement commentée par Mathieu Pechberti. Alors il faut dire qu'il y avait le dossier casino, mais après, oui. Ça c'est un peu à part. Ça c'est l'effondrement vraiment d'une marque. Et puis vous avez vous avez une loi Egalim, donc la 10e loi en 10 ans, disait Jacques Ressel. La loi Egalim, là, c'est qui arrive. Et là, ils voulaient unir leurs forces pour se mettre en ordre de bataille pour démontrer que, un, il fallait qu'ils comptaient bien peser dans la discussion, dans les négociations, et surtout peser face à leur grande, entre guillemets, bien sûr, ennemi, l'industrie agroalimentaire.
Le fait que Leclerc, numéro 1, Intermarché, les Mousquetaires, numéro 3, rejoignent la FCD, ben, qu'ils avaient quoi, on dit quoi, un peu toisé finalement, qu'ils avaient un petit peu délaissé.
Ah oui, qu'ils avaient complètement délaissé. Michel-Edouard Leclerc, lui, était un franc-tireur.
C'est révélateur d'un état d'esprit, d'une inquiétude de l'industrie de la grande distribution aujourd'hui.
Oui, non, mais c'est exactement ce que dit Edwige. Effectivement, Michel-Edouard Leclerc qui avance, effectivement, qui fait cavalier seul à chaque fois, notamment sur nos plateaux télé, pour dire son point de vue et que les autres font pas assez bien. Ils se sont quand même rendus compte à un moment donné que celui qui tirait les marrons du feu, c'était évidemment les industriels. Ouais. Dans les négos, c'est toujours un négo commercial. Ces fédérations professionnelles servent quand même avant tout, pas que, mais avant tout à du lobbying, à peser, notamment dans ces négociations-là. Et il était assez étonnant, maintenant on voit ça depuis de très nombreuses années, évidemment, que ces acteurs, à chaque fois, avançaient en ordre dispersé. Peu importe les modèles intégrés ou pas, c'est pas vraiment le sujet, ça c'est de l'habillage. C'est que chacun effectivement faisait un peu cavalier seul, et en gros il y avait Leclerc Carrefour, les deux géants, et puis après les petits, et là il y a un nouveau gros quand même, ça qui est intéressant, qui arrive dans le jeu, hein, pour challenger un peu les
je pensais à Intermarché,
ah, oui. Qui notamment rachetant pas mal de parts de marché à Casino, intègre un peu plus, on va dire, vient chatouiller le duo, ou en tout cas le duel entre Carrefour et Leclerc, effectivement, pour peser dans la loi Egalim. C'est plutôt étonnant, finalement, que ça n'ait pas été fait avant.
Edwige Chevrillon.
Juste un point, c'est intégré ou pas, ça n'a pas d'importance.
Si, non, c'est caricature, mais...
Dans le sens où on voit que Carrefour, c'est ce qu'il cherche à faire. On lui reproche du reste beaucoup, Alexandre Bompard. Tous les magasins, les hyper qui ont été rachetés à Casino, que ce soit par Carrefour ou Intermarché, ils vont avoir ce modèle indépendant. C'est quand même le modèle qui s'avère plus, plus rentable que le modèle intégré. Donc c'est, je pense que ça jouait aussi. Avant, ils étaient en opposition frontale. Maintenant, ils le sont. Ils sont en concurrence, mais ils sont.
Oui, mais c'est un peu plus doux. Ouais.
Non, mais disons, on est dans un marché quand même extrêmement concurrentiel, qui l'est d'autant plus qu'on est en période d'inflation, avec une pression de pouvoir d'achat. Enfin, tout le monde connaît ce contexte-là, et que ces groupes-là, si vous vous rendez bien compte qu'ils étaient 6 auparavant. Bon, maintenant, on va dire qu'ils sont 5,5. Hein, je caricature un peu, mais quand même, il y a un acteur qui a quand même...
À 5 réduit la...
Non, non, mais Casino, il y a quand même un propriétaire de Casino qui existe encore, mais il est beaucoup plus petit. Et donc, il y a trois gros, Leclerc, Carrefour et Intermarché maintenant, et qu'encore une fois, ils doivent peser face aux industriels, et que pour ça, un, il faut se mettre ensemble, deux... Il faut mettre en commun les centrales d'achat. Les enjeux de centrales d'achat sont très importants. Il y en a eu un qui a été reconduit, notamment entre avec Intermarché et Casino et Auchan, si je ne me trompe pas, pour de nombreuses années. Et le nerf de la guerre est là. Il faut être gros, de plus en plus gros, avec ces centrales d'achat, effectivement, pour peser face aux industriels,
bon,
pour faire en sorte que eux aient un peu moins de marge et que les distributeurs en récupèrent un peu. Pour les consommateurs.
Ouais. Alors, juste un point à retenir, parce qu'on a bien compris, c'est la position de la grande distribution. Pas question de remettre en cause les centrales de rachat européennes. Alors que Bruno Le Maire nous explique qu'il faut absolument les supprimer. D'abord, on ne voit pas très bien comment. Mais pour eux, pas question, parce que c'est face aux géants américains. Et que vous regardez les marges du Coca, etc., c'est plus de 26%. Donc, c'est là où se trouvent les marges. Et les négos.
Ce chiffre m'a fait. 26% de marge chez Coca, ça fait complètement rêver. Quoi, ça, c'est quand même,
surtout la grande distribution.
Absolument. Voilà, la mêlée se met en place. Mais les communes dans la grande distribution
c'est le problème, c'est pas Coca.
Dans loi Egalim.
Le problème, c'est pas Coca. Non, c'est
négociation commerciale.
C'est pour ça que c'est toujours de brandir.
Bon, 26% oui, de marge. Ça fait rêver.
Oui, bien. Le problème, c'est les produits de
première nécessité, c'est le consommateur, c'est le lait, le beurre, les aigus.
Mais ça passe pas par les centrales d'achat européennes.
Non, mais je sais bien.
Voilà. Mais tu peux parler que des centrales d'achat européennes.
Non, mais c'est pas toujours l'argument de mettre les géants américains à côté de nos petits agriculteurs français. Le sujet est pas vraiment là.
Alors, au milieu de tout ça, bien, encore une mauvaise pub, une de plus pour l'EPR, comme toujours. Pour les futurs EPR français qui doivent être construits en France, c'est Journal Les Échos qui affirmait aujourd'hui que la facture des 6 premiers devait augmenter de 30% par rapport aux coûts initiaux, coûts qui avaient été élaborés avant le Covid.
Et c'est sorti le jour où Emmanuel Macron est en République tchèque avec tous les patrons de la filière nucléaire, parce qu'EDF, bien sûr, est candidate pour construire 4 EPR là-bas. Emmanuel Macron n'a pas commenté ces informations, mais il s'est employé à jouer les VRP de l'offre française. Écoutez.
Sur la question du nucléaire civil, le partenariat qui est le nôtre est à mes yeux très fort. Il est aujourd'hui de nature politique. Nous allons signer un accord industriel sur l'uranium tout à l'heure. Nous souhaitons aller encore plus loin, et la France, vous le savez, est candidate au grand prospect que la République tchèque aura à décider. Mais c'est notre conviction que se joue aussi une partie de cette souveraineté européenne qu'on évoquait là. Nous devons apporter une solution aux défis climatiques et émettre moins de CO2. Nous devons être plus souverains en matière d'énergie et donc la produire sur notre sol plutôt que de dépendre de ce qu'on importe. Et nous devons produire une énergie compétitive, pilotable, pour continuer à créer des emplois. Le nucléaire répond à cette stratégie.
Bon, il n'a pas commenté les infos des Échos, il a fait le job, quoi. Voilà, on va dire, il a fait le job, tout simplement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus aujourd'hui ?
C'était pas le moment.
Non. Oui, non, il n'a pas commenté cette info. Non, mais c'est le nucléaire un peu à tout prix, quoi, si vous voulez. C'est green, c'est souverain, c'est énergétique, donc le prix, on verra plus tard. Je caricature un peu, mais il y a quand même un peu de ça. Sachant que le sujet de la République tchèque, puisque Emmanuel Macron était à Prague, est un peu particulier, puisque l'offre française, qui est en fait, c'est la seule offre européenne, l'offre qui est opposée à EDF en République tchèque, ce sont des Sud-Coréens. Donc, autant vous dire que si les Tchèques choisissaient les Sud-Coréens, ça serait quand même une surprise. Ça serait quand même, oui, pour pas dire autre chose, ça serait plus qu'un incident diplomatique, surtout en ce moment. Enfin, on n'a rien contre les Sud-Coréens, c'est pas le sujet, mais vous voyez, c'est essayer d'imposer le nucléaire.
L'année dernière en Pologne, ce sont les Américains de Westinghouse qui avaient gagné.
Complètement.
C'est sur la Pologne et les Américains, c'est une histoire
Oui.
Les Sud-Coréens, c'est pas quand même les Américains.
Non, mais voilà, mais effectivement, l'année dernière, c'était les Américains qui avaient gagné en Pologne, non pas pour des raisons techniques ou industrielles, mais pour des raisons évidemment et éminemment géostratégique entre la Pologne et la Russie.
Oui.
Voilà, là, il n'y a pas trop de doute. EDF est quand même assez confiant sur ce sujet. Et puis, j'ai envie de dire combien ça coûtera, qui paiera, etc.
Bon, ça, c'est
le problème des Tchèques. Quand même, je dis juste parce qu'on a eu des dépassements de coûts absolument colossaux en Grande-Bretagne sur les deux EPR d'Inclay Pony il y a 15 jours.
Partout.
Moi, je ne sais pas à cette heure, je ne sais pas dans l'offre d'EDF qui prendra en compte le risque de construction. Est-ce que ça sera sur le bilan d'EDF ou pas? Est-ce que, vous voyez?
C'est son maintenant, c'est nationalisé, c'est d'où l'intérêt.
Ah oui, non, mais est-ce que.
Non.
Moi, je ne sais pas si le contribuable français enfin plutôt le consommateur français en payant ses factures d'électricité à EDF financera une partie des réacteurs tchèques.
Et comment ça
de la même manière
De
la même manière que le bilan d'EDF supporte les EPR en Grande-Bretagne, est-ce que le bilan d'EDF supportera les EPR tchèques s'il les gagne?
Lui qui doit déjà supporter.
Juste un petit clin d'œil, mais intéressant.
C'est quand même là le sujet aujourd'hui. Hein.
Le monsieur énergie pendant très longtemps, pas sur le nucléaire, mais à Prague, c'est qui? Daniel Kretinsky, donc c'est quand même lui qui est le monsieur énergie. Donc maintenant là il est chez lui là pour le coup. Et donc je pense que quand même il a dû établir des liens avec Emmanuel Macron, peut-être qu'il fait le go-between entre le gouvernement tchèque, parce qu'évidemment c'est des personnes les plus influentes à Prague. Il doit faire peut-être le go-between.
Bon, voilà, en attendant, on a accueilli Nicolas Marques qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Nicolas, l'Institut Molinari est donc avec nous. EDF doit quand même convaincre qu'il est capable de livrer, même si on comprend qu'ils sont mieux placés que les Sud-Coréens pour gagner le marché. Parce que, en effet, comme le disait Mathieu, Hinkley Point, en Grande-Bretagne, accuse déjà 5 ans de retard et c'est 20 milliards d'euros de surcoût.
Oui, mais là, on est sur des dossiers différents. Alors, attendez,
on va brancher le micro.
Qui va arriver
avec un masque, sans c'est micro, bon, ça y est. C'est
cool. Alors, oui, je suis d'accord, Audrey, mais le dossier est différent, le design qu'ils vendent là est différent. Moi, je trouve que c'est des très très bonnes nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le nucléaire en République tchèque, c'est 37% de l'électricité, et le charbon, c'est 48%. Le charbon a dose d'électricité identique, c'est 290 fois plus d'émissions de CO2.
Mais c'est beaucoup moins cher.
C'est beaucoup moins cher, oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir si la priorité est environnementale ou pas. Et il faut savoir se projeter dans le temps. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que les Tchèques, ils sont en train de rejoindre la stratégie française. Oui. Ils ont même
comme beaucoup de pays d'Europe de l'Est, comme beaucoup de pays de l'Europe.
Ils ont pour objectif d'avoir 60% d'électricité nucléaire. Et pour nous, c'est une formidable opportunité, parce que comme on l'a dit précédemment, les fabricants de centrales nucléaires, ils sont en Corée du Sud, ils sont aux États-Unis, et EDF est en train de se relancer. Bon, en matière de nucléaire, c'est l'industrie. Il faut faire de la grande série.
Oui.
Donc, plus il y aura de production, plus les coûts baisseront. Et ça, c'est fondamental. Et le contrat.
Alors, Mathieu semble dire l'inverse. Hein, mais allez-y.
Le contrat que propose EDF, c'est de financer une. Et il y a des options sur 3 autres centrales. Donc, ça serait équipé 4 centrales. C'est quelque chose de majeur. Il n'y a pas d'opportunité souvent comme ça. Et donc, je dis bravo. Si tout va bien, le début de travaux, c'est 2029. Et la mise en service, c'est 2036. Ouais. Et là, ils font une offre totalement complète. Ils font tout. La maîtrise d'œuvre, la formation des équipes, la formation du combustible.
Ouais. La recherche.
La recherche. Et en plus, ils ont fait une offre très locale avec 300 entreprises locales qu'ils ont sélectionnées. Donc,
Mathieu, rapidement, d'accord avec ce Cocorico.
Le fait qu'il n'y ait pas d'effet serré, effectivement, c'est ça qui fait aussi gonfler la facture quelque part. Ce n'est pas le seul facteur, il y a l'inflation
aussi.
Oui,
moi, j'ai un peu cassé l'ambiance, désolé, encore une fois. Mais non, cet EPR-là n'est un EPR qui n'existe pas. Alors, j'ai envie de dire, de toute façon, comme aucun EPR n'existe.
C'est pas le futur nôtre.
L'EPR en Finlande est un premier modèle, l'EPR de Flamanville est un modèle encore différent. Les EPR en Chine étaient un peu les EPR de Flamanville, mais un peu modifiés. Les deux EPR en Grande-Bretagne sont encore des EPR différents. Et celui-là, il y a un
EPR. C'est le cinquième modèle sur mesure. Au moment où on a besoin de faire des économies.
1200 mégawatts en République tchèque.
Et en plus, les Tchèques, voilà, des EPR de moins
EDF ne va pas repartir de zéro, évidemment. Mais c'est quand même des designs différents, enfin des puissances différentes.
Sur mesure.
Et donc les effets de série, je suis désolé, mais parce que je sais que c'est le grand argument d'EDF, mais c'est faux. Alors évidemment qu'il y a des économies d'échelle sur la filière, sur les composants, sur les fournisseurs, mais il n'y a pas. Enfin, l'effet de série, c'est un peu le travail à la chaîne. C'était l'argument d'EDF pour dire à Emmanuel Macron il y a 2 ans, donnez-nous 6 EPR pour que.
Si ça existe quand même,
on les enchaîne, mais pas en République tchèque. Par rapport au retour d'expérience, il va y avoir évidemment des économies d'échelle, il n'y aura pas les mêmes erreurs, les mêmes. Il va y avoir des améliorations par rapport à ce qui a été fait par le passé. Mais l'idée, c'est quand même à un moment donné. Enfin, les Russes, c'est ce qu'ils savent bien faire. Eux, ils ont des modèles de réacteurs, d'ailleurs, ils n'en ont pas qu'un. Nous, on n'en a qu'un.
Un mot. Oui.
Et donc, du coup,
comme vous venez de le dire.
Oui.
On n'en a qu'un, mais il change. Il évolue.
Ben oui, mais c'est ça le problème.
Ou
vous avez plusieurs modèles et vous les standardisez et vous les répliquez à la chaîne. Et là, on n'a qu'un seul modèle et on le différencie. Donc, c'est un peu
mot de ce qui explique aussi que l'envoi de la facture, c'est l'inflation. On en parlait aujourd'hui.
Alors, c'est plusieurs choses. La facture qu'Emmanuel Macron avait donnée en 2022.
Les mêmes.
Et Emmanuel Macron l'avait donnée en février 2022. Donc, on va dire que les coûts, le calcul datait de 2021. Ouais. Et en fait, les estimations, c'était sur des coûts de 2019. Donc, il y a et le Covid. et on savait que pendant le Covid, oui, il y avait aussi eu un renchérissement.
Le coût des matières.
Et l'inflation et les matières premières. Donc,
oui. Et les mauvaises prévisions.
Ce plus 30,
aussi.
Ce plus 30%, enfin, d'ailleurs, les Échos l'écrivent très bien dans leur article, n'est absolument pas surprenant.
Oui. Oui.
Et c'est sûrement pas fini, et parce qu'il y a des négociations en cours sur comment on construit ces EPR-là. Et je peux vous dire que ne serait-ce que sur l'aspect génie civil, donc construction, le béton, etc., il y a des négociations avec Eiffage en ce moment qui va s'en occuper.
Ils
sont apparemment pas faciles.
Oui.
Donc on n'est plus à un milliard près, mais bon, on va rajouter quelques-uns dans la balance.
Gardez-en pour les prochains mois, parce qu'on parlera indéniablement de ces EPR français, évidemment. Voilà pour le nucléaire.
Hein. Voilà, alors on va évidemment parler de ce super Tuesday. C'est aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la course à l'investiture, le vote pour les primaires dans 15 États du pays pour désigner le candidat de son propre camp côté démocrate et républicain. Ça sent plié, Guillaume, non?
Bah, ça sent plié, Trump-Biden. Et alors, le problème, c'est qu'on a jusqu'à présent deux candidats qui ne sont pas vraiment livrés sur leur programme au plan économique. On va en parler avec Léa Rojo qui nous a rejoint. Bonsoir Léa,
bonsoir.
Bienvenue. Il y a beaucoup de divergences, vous voulez le souligner, entre les deux candidats. Déjà sur les questions liées au climat, forcément Léa.
Oui, et commençons par Donald Trump, l'ancien président, a promis de ressortir des accords de Paris, comme il l'avait fait au cours de son premier mandat. Deuxième point, et il le martèle à tous ses meetings, drill, 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 il faut forer. Donald Trump veut augmenter les forages de pétrole et de gaz, une façon selon lui de faire baisser les prix. Et contrairement aux idées du candidat Trump, Joe Biden veut poursuivre l'IRA, son plan de subvention aux technologies propres. L'actuel président souhaite capitaliser sur ce plan qui doit créer d'après lui 1,5 million d'emplois en 10 ans. L'objectif climatique de Joe Biden est clair, atteindre la neutralité carbone en 2050. Sur le volet industriel maintenant, Joe Biden a investi dans plusieurs secteurs stratégiques ces derniers mois, les semi-conducteurs, les infrastructures portuaires et ferroviaires et évidemment les véhicules électriques. De son côté, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait supprimer les subventions à la production ou à l'achat de véhicules électriques. L'ex-président veut plutôt favoriser et accélérer la conception de voitures volantes.
Alors justement, on continue avec le commerce international. Léa, quelles sont les idées des deux candidats sur ce volet?
Alors Joe Biden envisage de nouvelles restrictions sur les produits chinois selon son administration. Il souhaite également réduire la dépendance à la Chine et délocaliser la production dans des pays alliés. Donald Trump, lui, reste ferme sur ce sujet-là et envisage une taxe de 10% sur toutes les importations, quelle qu'en soit l'origine. En parallèle, il veut monter ses tarifs douaniers à 60% pour tous les produits chinois.
Et puis sur la fiscalité non plus, c'est pas la même, hein, Léa?
Exactement, hein. Et sans surprise, les deux candidats restent en opposition. Joe Biden a proposé de relever le taux d'imposition le plus élevé à 39,6%, le taux d'imposition des sociétés à 28% et la taxe sur les rachats d'actions à 4% contre 1% actuellement. De plus, il souhaite toujours un impôt minimal de 25% sur les plus riches. Donald Trump, de son côté, pourrait prôner la stabilité fiscale pour les entreprises et les particuliers.
Merci beaucoup Léa Rojo avec nous sur BFM Business. Bon, je sais pas, on m'a toujours expliqué que les Américains votaient le jour de l'élection en fonction de l'état des marchés, de leur portefeuille. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, juste que ce qu'on va un petit point, juste pour dire que ce Super Tuesday, il est un peu différent des autres hein, quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu.
C'est clair.
C'est, le match, il est là, il est devant nous, donc Nicolas.
Et c'est quand même extrêmement décevant.
Non, mais ça, oui, bien sûr, mais ça, c'est presque un autre débat. Oui, c'est surtout décevant, c'est plutôt c'est l'âge du capitaine qui est quand même un petit peu.
Déroutant, bien d'accord, c'est clair.
Déroutant de ce point de vue-là. Donc, ce Super Tuesday, l'enjeu, il est moindre, sauf pour voir s'il y a un raz-de-marée, effectivement, côté Trump. Voilà, c'est l'enjeu de ce Super Tuesday.
Avec donc en effet un match qui commence sur le volet climatique. Donald Trump l'a dit, Nicolas Marquez, il sortira des accords de Paris s'il est élu, s'il est réélu.
Bah, il l'avait déjà fait.
Oui. En fait, alors moi je suis économiste, ce que je vois c'est qu'il y a un débat sur la dette, il y a une prise de conscience de l'importance de la dette hein, aux États-Unis et il y a deux solutions économiques.
Où est-ce que vous voulez dire ça? Biden veut poursuivre l'IRA qui coûte une fortune.
Tout à fait.
Trump, en revanche, veut en sortir.
Trump, son sujet, c'est de pérenniser ses baisses d'impôts. Il a fait des baisses d'impôts quand il était président, et ces baisses d'impôts, elles sont actées jusqu'en 2025. Oui. Et donc, il dit, il faut les préserver, et donc, il va falloir réduire les dépenses. Et il veut trancher dans les dépenses environnementales. Il veut réduire les dépenses de Biden. Et puis, il veut aussi augmenter les droits de douane. Tout ça, c'est pour finalement pérenniser ces baisses d'impôts et augmenter, augmenter les recettes.
Alors que Biden veut faire l'inverse, voilà, précisément, Biden... et augmenter, relever le taux d'imposition.
Biden, il veut terminer le travail. Et lui, il veut financer les dépenses sociales et les dépenses environnementales qu'il a faites en augmentant la fiscalité. Et donc, le débat économique, il est là. Est-ce qu'on...
Je suis pas sûr que la dette soit... Enfin, personnellement, la dette, la dette publique soit un enjeu. Elle est tellement colossale qu'il faudrait des mesures.
Alors, on en a combien ? 120% du PIB, c'est ça ?
Oh non, aux US, ils sont... ils frôlent les 150% du PIB.
Oui, moi, j'étais 150%.
Donc, ils étaient à 144 en 2022.
Et quand vous avez le dollar, Nicolas, vous savez...
Oui, mais ils regardent quand même cet aspect dette. Ouais. Et il y a deux, vraiment, lectures. Les démocrates disent on fait du déficit parce qu'on n'a pas assez de recettes fiscales. Il faut revenir sur ce qu'avait fait Trump. Et Trump dit les démocrates ont fait plein de cadeaux, ils ont financé les voitures électriques. Trump passe son temps à se gausser sur, à l'encontre des voitures électriques, et dit il faut arrêter ce genre de bêtises. Voilà, deux lectures radicalement différentes.
Moi, si je fais un petit peu de mauvais esprit, j'ai envie de dire que Donald Trump, il a envie de réduire une dette, mais c'est la sienne. C'est la sienne, et puis financer sa campagne. Non, mais avec le drill, user des forages, on sait que tous les pétroliers, les compagnies pétrolières, elles sont derrière Donald Trump. Donc c'est pour ça qu'il a été élu la première fois, et peut-être qu'il sera élu parce que c'est lui, il est capable de, dire, d'avoir derrière lui des millions de dollars. Donc on est déjà quoi, à 200 millions de dollars, et à mon avis, il y arrivera d'une manière beaucoup plus élevée.
Et puis, pardon, allez-y.
Non, je repose la question. Est-ce que le mythe sur lequel les Américains votent le jour de l'élection en fonction de l'état de leur portefeuille, de la santé des marchés, est-ce que c'est une idée... C'est une idée qui appartient au passé pour vous, Saint-Nicolas, ou quand même quelque part ça comporte encore une petite part de réalité?
Dans les études économiques, on voit bien un lien. Hein. Il y a un lien direct entre le niveau du chômage et la reconduction des candidats sortants. Donc il vaut mieux arriver à une élection avec un chômage qui baisse et une conjoncture qui est bonne.
Oui, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Chine va passer un mauvais quart d'heure si toutefois Donald Trump est réélu, parce que sur les mesures protectionnistes, Donald Trump veut monter les tarifs douaniers à 60% concernant les produits chinois. Ça va faire mal.
Eh bien justement, la Chine, on va en parler un instant, parce qu'on est au téléphone avec Alexandre Morlaix, la Vidali, économiste chez Rex et Code. Bonsoir Alexandre, merci d'être avec nous quelques instants par téléphone. On voulait avoir votre point de vue justement, puisqu'on parle de la Chine, parce qu'elle nous a annoncé ce matin qu'elle ferait 5% de croissance. Sauf qu'on a entendu Li Xiong, le Premier ministre, l'annoncer à Pékin, il n'y avait pas tellement de conviction dans sa voix, ce qui n'est pas vraiment fait pour nous rassurer. Vous y croyez, vous, aux 5%, Alexandre, pour cette année ?
Alors, bonjour à tous. Effectivement, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que déjà cette cible, elle est surprenante ? La réponse, c'est plutôt non. On a eu des séries de réunions déjà en décembre des hauts dirigeants chinois qui nous annonçaient cette cible. Et quand on regarde les cibles qui ont été publiées par les différentes régions et qu'on les pondère, on arrivait à peu près déjà à cette cible de croissance de 5%. Et il faut se rappeler que dans le 14e plan quinquennal de la Chine, elle avait pour objectif de doubler son PIB entre 2020 et 2035, ce qui correspond bien à un rythme de croissance autour de 5% l'an. Donc là encore, c'est globalement une cible qui est en ligne avec ce que l'on pouvait attendre. Est-ce qu'elle est crédible ? Honnêtement, plutôt oui. Pourquoi ? Deux raisons. On a d'abord un acquis de croissance, c'est-à-dire l'impulsion qui est donnée par la croissance du PIB qui vient de 2023, qui est de l'ordre de 2% pour 2024, ce qui signifie qu'on aurait besoin d'une croissance seulement trimestrielle sur chaque trimestre de l'année 2024, de l'ordre de 1,2%, ce qui est honnêtement inférieur à ce que la Chine a connu sur les années pré-Covid, même nettement en dessous. Donc ça paraît quand même relativement crédible. Mais il y a quand même des conditions pour que cette cible soit atteinte. C'est d'une part que le marché immobilier soit stabilisé, c'est-à-dire qu'on soit probablement proche du point bas, que la consommation privée, elle, redémarre. De ce point de vue-là, il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles lors du Nouvel An chinois, avec des recettes touristiques qui ont été meilleures qu'anticipées, et que les secteurs porteurs, notamment ceux de la tech et des nouvelles technologies, continuent de croître au rythme auquel on a observé sur les deux dernières années. pour effectivement que cette cible soit atteinte.
Oui, alors après, beaucoup d'experts justement sur le sujet chinois s'accordent à dire que ces 5%, ce sont des chiffres qui sont déguisés, que c'est plutôt une croissance entre 0 et 1%, parce que il y a d'une part ce chômage terrible qui concerne les jeunes à laquelle la Chine est confrontée, l'inflation qui continue, des dépenses publiques qui ne sont pas vraiment contrôlées, et puis par ailleurs, les investissements étrangers ont chuté de 82% l'an passé. La Chine est quand même dans une très mauvaise passe.
Merci Alexandre qui est avec nous. Merci Alexandre Morlet, La Vie d'Ali, économiste chez Rexecode. Vous êtes d'accord? Est-ce que faut se fier véritablement à ces statistiques, à ces prévisions?
C'est jamais fier, donc.
C'est jamais fier.
Oh, oui, on va pas commencer.
C'est toujours difficile. Ouais. Mais ce que ça montre, c'est que l'économie chinoise est en train d'atterrir. Ouais. Et c'est assez traditionnel.
On cherche le modèle d'après, en fait, quelque part, Nicolas.
Il y a eu un rattrapage. On a vu ça avec le Japon. Les taux de croissance du Japon, un jour, se sont calmés. Et là, on a une économie qui rentre dans un rythme de croissance, j'ai envie de dire, assez normal.
Edwige Chevrillon.
Ce qu'il faut juste essayer de voir, et je pense que c'est ce que cherche le gouvernement chinois, c'est qu'est-ce qui est tenable socialement. Parce que jusqu'à présent, c'était quand même un modèle de croissance très forte.
Ouais.
Et donc là, ça tenait. C'est-à-dire que les classes moyennes, enfin, tout le monde profitait en fait de cette croissance. Et là, on voit bien qu'il commence à avoir des tensions sociales très fortes en Chine. Et c'est ça toute la difficulté politique pour le gouvernement.
Chômage de 15% des jeunes. On vous a souvent expliqué qu'il fallait au moins 7% de croissance pour faire baisser le chômage et donc maintenir le calme et dans les grandes villes mais surtout dans les campagnes. Voilà, ce qui est un objectif effectivement difficile à tenir.
À 5%, on n'y arrive pas.
Non. À 5%, on n'y arrive pas, si on les fait en plus. Bien, bon, on reparlera de tout ça bien sûr entre 19h et 20h avec nos experts sur BFM Business. 18h58, c'est fini. Nicolas, vous restez avec nous, vous revenez dans un quart d'heure. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h. Edwige, on se dit à demain, 18h10 bien sûr, en direct.
Absolument. Olivier Ginon, le patron de J-Events qui sera là, il sort ses chiffres, c'est intéressant de voir si tous les grands événements sportifs ont rapporté quelque chose ou pas. La réponse demain.
Réponse demain, 18h10, avec le patron de J-Levels. 18h58, nous revient dans un instant.
Ah oui, restez avec nous. On va parler nucléaire, on va parler fonctionnaire, on va parler indemnité, licenciement.
Que de grands sujets à décrypter ensemble jusqu'à 20h. Nos experts qui reviennent bien sûr dans un quart d'heure. A tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.